Oui, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très commun, ou je dirais plutôt commun à plusieurs personnes, et une expérience, des expériences qui sont très difficiles à vivre. J'aimerais vous parler de la faillite. Non seulement vous parler de la faillite, mais aussi vous parler de la restauration après la faillite. Car on sait que lorsqu'on fait faillite, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et j'en sais quelque chose parce que j'en ai fait une moi aussi. Ça amène non seulement des problèmes, mais ça nous met souvent en dépression. Même la faillite peut causer des divorces, des pertes d'emploi, des dépendances aussi. Une faillite peut être aussi être une dépendance. Et la faillite peut causer aussi, la faillite financière peut causer aussi des dépendances à l'alcool ou à la boisson. Peu importe, la faillite, je vais vous dire une chose, c'est jamais, jamais agréable pour personne, à moins que quelqu'un soit bien endurci et qu'il voit la faillite comme un privilège pour s'enrichir, parce qu'on sait qu'il y a des faillites frauduleuses. Mais en temps normal, la faillite n'est pas quelque chose de plaisant à vivre. Moi, avant de faire faillite, j'avais beaucoup d'argent. À ce moment-là, j'étais millionnaire. J'avais une grosse maison, on l'appelait même le domaine. Et je me demandais, je me disais, comment je peux faire faillite lorsque tout est clair à moi? Tout était payé, j'avais un commerce, tout mon inventaire était clair à moi, j'avais de l'argent en banque, j'avais un fonds de roulement sans avoir besoin de marge de crédit. Et je me disais comment je pourrais perdre ce million-là lorsque tout est payé, il n'y avait aucun créancier qui courait après moi. Et je vais vous dire... J'étais vraiment sûr que jamais pour moi ça m'arriverait. Mais par contre, je me disais comment je réagirais si jamais je faisais faillite. Même je pensais, je me disais, est-ce que j'irais même au suicide? Parce que lorsqu'on est habitué de rouler avec j'avais toujours des voitures de luxe de l'année, je me promenais en Audi. On faisait des voyages lorsque ça nous plaisait, on s'habillait dans les plus belles boutiques, on avait besoin de meubles, on achetait les meubles qu'on avait besoin, qu'on voulait. Dans le fond, on ne se privait pas de grand-chose. Et je me disais, dans le fond, si je perds tout, si je perds toutes ces choses, comment je vivrais toute cette perte? Et même à un moment donné, j'étais dans mon bureau de vente ou dans ma compagnie, et il y avait une grande vitrine en avant, et je voyais tous mes démonstrateurs en avant de moi, les démonstrateurs de maisons pré-usinées, parce que je vendais de la maison modulaire et de la maison pré-usinée. Tout cet inventaire-là était clair à moi, et j'ai dit au Seigneur, comment pourrais-tu me faire perdre tout ça quand tout est clair à moi? Je ne parlais pas d'une façon arrogante, mais je me disais que tout ce que j'avais, c'était grâce à mes talents, c'était à cause de mon travail acharné, que j'étais un travailleur, avec de la motivation, avec des visions. Ensuite, je m'étais mis beaucoup de principes. Des principes de base, puis je me disais, si j'ai ces principes-là de base, pour moi, j'ai peu de chances de faire faillite. Je me disais, bon ben, je vais être fidèle à ma femme, j'ai pas commis d'adultère, je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne prenais pas de drogue, même j'avais arrêté même le café pour être sûr que j'étais en contrôle de moi-même. Et que je pouvais être vraiment en contrôle là, de la compagnie, de toutes les opérations. Mais pas longtemps après que j'ai dit ça et que j'ai pensé à ça, Là, tout ce que je faisais avant allait bien, et là, tout a commencé à aller mal. Tout ce que je touchais avant ça, je faisais de l'argent, et là, tout ce que je touchais, je perdais de l'argent. Pourtant, j'avais le même talent, j'avais la même ambition, j'avais les mêmes visions toutes, et pourtant, tout a tourné de bord. Je dois vous dire que c'était une période quand même qui était, excusez-moi, c'était une période qui a été quand même, qui commençait à être vraiment difficile. En plus de perdre le million que j'avais, j'ai fait perdre au-dessus d'un million. Et ça a pas été long. Dans l'espace de 2 ans et demi, j'ai tout perdu. J'ai fait la faillite, non seulement une faillite commerciale, mais aussi une faillite personnelle. Quand ça commençait à aller mal, avant ça, toutes les relations que j'avais se tournaient à mon avantage, comme je vous ai dit. Et là, je me suis associé avec quelqu'un. La personne a été frauduleuse là envers moi. Ensuite de ça, j'ai pris des mauvais contrats. En bref, tout a commencé à mal aller. Lorsque vraiment j'étais dans cette situation, c'est alors que j'ai commencé à chercher une solution pour vouloir m'en sortir. J'essayais de tout bord, de tout côté, d'aller chercher de l'aide ailleurs, mais vous savez, quand ça va mal, il n'y a plus personne qui veut t'aider. Hein, quand ça va bien, tout le monde cherche ta compagnie, tout le monde veut s'associer, tout le monde veut acheter ton commerce, tout ça. Et lorsque ça va mal, mais là, tout tombe de bord. Comme quelqu'un a déjà dit, lorsque t'embarques dans le tordeur, c'est très difficile de s'en sortir. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à m'interroger. Après avoir tout essayé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aimerais vous lire un verset dans 2 Corinthiens, parce que moi, je suis quelqu'un qui lit la Bible. Ce verset provient de l'apôtre Paul. Un instant, je vais le trouver. Et l'apôtre Paul était dans une situation où que c'était très difficile de s'en sortir. Il avait tout essayé. Tout, et il y a rien qui marchait. Maintenant, je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit. C'est dans 2 Corinthiens 1, les versets 8 et 9. Je sais pas si vous avez une Bible à la maison ou vous avez un site internet où vous pouvez lire la Bible en ligne, mais ce serait important que vous soyez capable de le lire là. Je cite, il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu seul. Voyez-vous, lorsqu'on est dans des situations où qu'on a tout essayé, on a essayé par nos propres forces, on est allé voir de l'aide tout partout, et finalement, il n'y a plus rien, rien, rien qui fonctionne. Ce que Paul dit même, il allait plus loin que seulement qu'une faillite personnelle, là, lui. Il voyait certains comme son arrêt de mort. C'est-à-dire que il était rendu tellement au point qu'il était sûr qu'il était pour mourir, qu'il avait plus rien, 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 rien à faire. Il dit, nous désespérions même de conserver la vie. Vous savez, quand on a tout essayé, par nos propres forces, on est allé voir les personnes, on est allé, on va à la banque, on essaie de trouver une solution de tout bord, tout côté, et finalement, il n'y a rien qui fonctionne. La seule solution qu'on peut faire, c'est d'aller à Dieu. Donc, je suis allé au Seigneur, je me suis tourné vers Dieu. Et je dois dire que c'était difficile au début parce que ma foi était très affaiblie. Je sentais un sentiment de rejet parce que lorsqu'on vit la faillite, on se sent rejeté, on perd toute notre image là, de l'homme qui a réussi, la personne l'a réussi, qui a la réussite, tout ça. Et on vient dans le découragement, on n'a plus confiance en nous-mêmes. Et les gens n'ont plus confiance en nous-mêmes non plus. Hein. En général, quelqu'un qui fait faillite, les gens, c'est sûr qu'ils ont de la misère à aller les voir pour continuer à faire des affaires. Même les manufacturiers avec qui que je faisais affaire, il n'y a plus personne qui voulait négocier avec moi. Donc, je me suis tourné vers Dieu. Et j'ai commencé vraiment à lire et chercher sa volonté, chercher sa face dans tout ça. Et même, je vais vous dire, quand que je me suis tourné vers lui, à un moment donné, c'est alors que j'ai commencé à vivre une réelle repentance. Mais cette repentance-là que j'ai vécue, c'est pas une repentance selon le monde. Parce que la Bible dit la repentance selon le monde, la tristesse selon le monde et la repentance selon le monde produit la mort. C'est-à-dire, c'est une repentance qui n'est jamais profondément qui n'est jamais profondément profondément vécu en profondeur dans notre âme. C'est une tristesse, c'est une repentance selon la chair, c'est-à-dire selon humainement. Tandis que lorsqu'on se repent, la vraie repentance selon Dieu, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 7, 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que lorsqu'on vit une repentance réelle avec Dieu, c'est vraiment réel, c'est vraiment Dieu qui produit cette repentance-là en nous. Et comment qu'elle se reproduit? Elle se reproduit à travers l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre en nous de péché, de justice et de jugement. Et cette repentance-là, elle est tellement profonde, elle vient à la profondeur de l'âme. Et lorsqu'on la vit, on voit, on sait, on saisit que cette repentance-là que l'on vit dans notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur, de l'âme, n'est pas de l'homme, mais vient vraiment de quelqu'un de l'extérieur. Elle vient de Dieu. Et comment qu'on produit, comment que cette repentance se produit? C'est qu'à un moment donné, nous devons reconnaître notre faillite. Pour ça, il faut vraiment demander à Dieu, même si c'est une faillite involontaire. Moi, c'était pas une faillite qui était frauduleuse. J'ai pas voulu volontairement faire faillite. Au contraire, lorsque j'ai fait faillite, avant de faire faillite, je voulais payer tous mes créanciers parce que pour moi, ma réputation valait plus que l'or. Mais finalement, à force d'essayer et de combattre pour ne pas faire faillite, c'est là que j'ai tombé dans un burn-out. Et c'est tout ça qui m'a amené à la repentance. Et pour vivre cette repentance-là, comme j'ai dit, je disais tout à l'heure, c'est il faut venir à Dieu, lui demander pardon vraiment, du fond du cœur, être sincère, lui demander pardon pour cette faillite, pour avoir vivre tout ce qu'on a vécu, et pour tous les péchés aussi dans notre vie. Que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau de n'importe quelle dépendance à la médication, excusez-moi, de la dépendance aux médicaments, de la dépendance à la drogue, de la dépendance à l'alcool, à la pornographie, à l'argent, toutes nos dépendances, tous les péchés qu'on a pu faire vivre, les blessures qu'on a causées aux autres personnes, faire vraiment un ménage dans notre vie et aussi être prêt à pardonner, être prêt à pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Et ça, c'est difficile. Et c'est ça, c'est sans l'aide de l'esprit, toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire. Ça fait que c'est vraiment de demander à Dieu, le supplier, vraiment de venir en nous, de lui demander pardon et de nous laver de tous nos péchés. Et comment Dieu a fait pour nous laver de tous nos péchés? Il a donné son fils Jésus-Christ à la croix afin d'expier tous nos péchés. Vous savez, lorsqu'on fait une faillite financière, on peut se laver de notre faillite avec le gouvernement lorsqu'on déclare faillite. À ce moment-là, bon, bien, on en subit les conséquences, mais à un moment donné, quand j'ai fait faillite, j'ai été lavé de tous mes dettes, tout ça. Mais avec le Seigneur, ça va encore au-delà de la faillite financière. Ça va au-delà de la Ça va dans la faillite morale. C'est-à-dire que Dieu nous lave non seulement parce qu'on est lavé de notre faillite financière, mais nous lave de notre faillite au niveau de la conscience, au niveau de tous les péchés, de toutes les fautes, de toutes les blessures qu'on a subies ou qu'on a fait subir. Il nous lave au complet. Et pour ça, il faut avoir la foi. Il faut croire et mettre notre confiance à Dieu que vraiment il nous a pardonné à travers son Fils Jésus-Christ à la fois. Et j'aimerais vous citer aussi un passage dans Jacques 1, le verset 2 à 4. De quelle façon qu'il faut voir l'épreuve? Parce que vous savez, tout ce qui nous arrive n'arrive rien pour rien. Il y a toujours une raison pour que les choses arrivent. Dans Jacques 1, 2 à 4, c'est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience soit complète, soit parfaite et accomplie sans faillir en rien. Oui, il faut que la patience fasse son œuvre, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, c'est dans l'épreuve, il faut être capable d'accepter l'épreuve, d'accepter la faillite. Et lorsqu'on accepte toutes ces choses, c'est alors que vraiment la libération vient. Et cette libération ne vient que dans la personne de Jésus-Christ. Si vous voulez avoir un nettoyage complet au niveau de votre conscience, au niveau de votre être, c'est seulement qu'en Jésus-Christ qu'il peut vous délivrer. Car c'est dit aussi, on est esclave de tout ce qui a triomphé sur nous. Et la seule façon, la seule personne qui peut vous délivrer, c'est Jésus-Christ. Et moi, je vous incite à lire la Bible. Si vous n'avez pas en papier, vous pouvez la lire sur les sites Internet, la Bible en ligne. Et c'est très important que vous lisiez la Bible parce que c'est à travers la Bible que Dieu va vous parler. La Bible en elle-même, ce n'est que le livre. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite qu'on appelle les Écritures. Mais la Bible, ce n'est pas la parole vivante de Dieu. Dieu vous parle à travers la Bible. La parole vivante de Dieu, c'est lorsque l'Esprit lui-même vous parle à travers la Bible, qui est un outil, l'outil principal que Dieu se sert pour vous parler. Donc, en lisant la Bible avec un cœur sincère, Dieu va vous parler. Ça, je peux vous l'affirmer. Mais il faut que votre cœur soit sincère. Et je peux vous dire qu'il va vous libérer entièrement. Vous allez devenir alors une nouvelle créature. Car c'est dit dans Corinthiens que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, lorsque vous vous convertissez à Jésus-Christ, lorsque vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, alors à ce moment-là, vous allez recevoir l'Esprit et vous allez devenir une nouvelle créature. Et comment vous allez savoir que vous allez recevoir l'Esprit? Quand même que quelqu'un vous dirait, oui, je crois que tu as reçu l'Esprit, ou je crois que tu es sauvé, ou peu importe. C'est pas ces personnes-là, ou même que vous alliez dans une assemblée, qu'on vous dise, oh, moi, je crois que t'es sauvé. C'est pas de cette façon-là. Excusez. La façon dont vous allez savoir que vous êtes réellement sauvé, quand je parle de sauvé, c'est d'avoir reçu la vie éternelle, d'être sauvé de la mort, de l'enfer, de la mort éternelle, pour recevoir la vie éternelle. Le salut dans la Bible, c'est en fonction de ça. Et comment vous allez le savoir? C'est dit dans Romains 8 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Comment je sais que je suis dans la vérité? C'est que Dieu m'a témoigné personnellement que je suis enfant de Dieu. Et c'est dit dans Jean, dans l'Évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir non né de la chair, mais né de Dieu. Et à ce moment-là, c'est là que vous êtes un enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si vous tournez vers Jésus-Christ et que vous êtes sincère, que vous voulez vraiment le recevoir, je peux vous dire une chose, c'est qu'il va venir en vous. Mais pour ça, ça vous prend un cœur sincère, ça prend le désir au-dessus de tout qu'il vienne en vous. Et vous serez réellement libre. Je vous dis, vous serez réellement libre. Donc, je vous laisse là-dessus. Et si quelqu'un a vraiment un témoignage à faire, veut partager, vous avez des critiques à faire, vous pouvez en tout temps faire votre critique sur cette vidéo. Et aussi, si quelqu'un veut connaître plus sur ma vie, j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychose, mensonge ou réalité. Oui, parce que j'ai été diagnostiqué psychotique et finalement, je peux dans ce livre, ça parle des psychoses que j'ai vécues et comment je peux vivre ma vie à travers la psychose, comment le Seigneur m'en est sorti, comment j'ai été libéré des médicaments. Et je peux vous dire que moi, j'ai été sauvé, ça fait en 1973 que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. Et malgré mes déboires, malgré tout ce que j'ai pu avoir vécu pendant ces années-là, parce que je vais avoir bientôt 70 ans, ça fait à ce moment-là 48 ans que j'ai accepté le Seigneur. Jamais, jamais le Seigneur m'a abandonné. Oui, j'ai cru à un moment donné qu'il m'avait abandonné, mais jamais, et ça va être la même chose pour vous, jamais il va vous abandonner. Donc, je vous laisse là-dessus, et si jamais vous voulez vous procurer ce livre, vous pouvez l'avoir, le procurer en Europe, parce que vous pouvez l'acheter en euros, ou vous pouvez vous le procurer ici au Québec. En mettant votre adresse, à ce moment-là, vous allez avoir le prix du livre canadien. Et vous avez seulement qu'à aller sur le site guyfréchette.com et à ce moment-là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour acheter ce livre. Et je vous incite, au nom de Jésus-Christ, de l'accepter comme votre sauveur personnel. Et je vous garantis, je vous certifie que vous allez le recevoir si vous êtes d'un cœur sincère. Donc, merci de m'avoir écouté. Amen.